Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Le leader de l'extrême droite autrichienne démissionne du gouvernement après la diffusion d'une vidéo embarrassante pour lui. Le numéro 2 du gouvernement, président du parti nationaliste FPE, Heinz-Christian Strache, a présenté sa démission au chancelier conservateur Sébastien Kurz, qui l'a accepté et qui pourrait annoncer ce soir des élections législatives anticipées. Pour une Europe des nations souveraines, malgré l'absence de leur homologue autrichien, les leaders des partis nationalistes d'Europe réunis à Milan autour de Matteo Salvini ont affiché leur unité de cœur et d'esprit, comme l'a dit Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui veut donner à toute l'Europe le signal de la reconquête. Dans ce journal également, le 27e épisode des Gilets jaunes. 6 mois après le début du mouvement, plusieurs milliers d'irréductibles encore à travers la France ce samedi. Un homme et une femme, 50 ans après, à Cannes, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, tout à l'heure sur le tapis rouge dans le dernier film de Claude Lelouch. Une nuit au musée, en l'occurrence au Centre Pompidou avec Christine Siméon dans Sa vie connectée. Et puis la démonstration des Lyonnaises en finale de la Ligue des Champions contre Barcelone. Elle menait à la mi-temps 4-0. Enfin la météo, une grande partie du pays encore sous les averses demain, les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange, pluie et inondations.
France Inter.
Pour commencer, ils sont fils et filles de prêtres et parfois même de religieuses, à peu près 4000 à travers le monde. Ils n'ont jamais été reconnus par l'Église catholique, ni même été simplement écoutés. Ce devrait être chose faite dans les jours qui viennent. On l'apprend aujourd'hui par le journal Le Monde. L'association des enfants du silence a été reçue au mois de février par le secrétaire général de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Ribaudot-Dumas. Et c'est une première dans l'histoire de l'Église catholique. Un geste inédit dont se félicite évidemment la responsable de l'association, elle-même fille de prêtre, Anne-Marie Mariani-Jarzac. Elle est au téléphone de Thibault Lefèvre.
C'est un bouleversement ce qui est en train de se passer. Il y a déjà un bon nombre d'enfants de prêtres qui m'ont contacté ce matin. Ils sont fous de joie. Fous de joie parce que, enfin, Rome fait attention à nous. Nous avons vraiment souffert. Nous ne sommes pas responsables de notre condition d'enfant de prêtre. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Rome n'a pas beaucoup eu l'occasion de nous permettre de nous exprimer. On a besoin d'une parole. On a trop vécu jusqu'à présent dans le rejet, l'humiliation. Donc c'est important pour nous, enfants de prêtres, aujourd'hui, d'être reconnus.
Une rencontre officielle, cette fois, entre les enfants d'ecclésiastiques et les évêques de France aura lieu à la mi-juin. L'occasion d'aborder enfin la question du sort réservé à ces prêtres qui sont devenus des pères, en sachant que le pape François a clairement rejeté toute remise en cause générale du célibat des prêtres. En attendant, c'est le dossier Vincent Lambert qui préoccupe les évêques de France, lesquels disent s'étonner ce soir de la précipitation à conduire vers la mort le quadragénaire tétraplégique dont les soins doivent être interrompus dans la semaine qui vient. Il demande à l'État français d'attendre la réponse du comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, ce que les avocats des parents Lambert, dans une lettre ouverte, demandent également à Emmanuel Macron. Ce comité de l'ONU, saisi par ces mêmes avocats, a demandé que le traitement de Vincent Lambert, en état végétatif depuis 10 ans, soit maintenu le temps d'examiner son dossier sur le fond. Ça fait désordre. Comme on dit, en pleine réunion des nationalistes européens à Milan, le leader de l'extrême droite autrichienne obligé de démissionner du gouvernement. Heinz-Christian Strache, numéro 2 du gouvernement, dirigé par le conservateur Sébastien Kurz, a été secrètement filmé en présence d'une ressortissante russe, proche d'un oligarque de Moscou, à laquelle il propose de donner accès à des marchés publics autrichiens en échange d'un soutien financier. La rencontre a été filmée avant les législatives de 2017, mais rendu public hier dans les médias allemands. Il n'y avait donc pas d'autre issue pour celui qui faisait tout pour se rendre fréquentable, pas d'autre issue que de présenter sa démission au chancelier Kurz, qui l'a immédiatement accepté. Isorias nous appelle de Vienne.
Le chancelier devait initialement prendre la parole en début d'après-midi. Ce sera finalement ce soir lors d'une conférence de presse qui devrait se tenir à 19h45. C'est dire si les négociations sont difficiles, car il y a différents scénarios. Soit la coalition prend fin et on s'achemine vers de nouvelles élections législatives, moins de 2 ans donc après celles qui ont porté au pouvoir les conservateurs et l'extrême droite. Soit la coalition tient et là toute la question est de savoir qui reste et qui part. D'après la presse autrichienne, c'est le sort du ministre de l'Intérieur, le controversé Herbert Kickl, qui divise. C'est un membre très influent du FPÖ et le parti d'extrême droite ne serait pas prêt à le voir quitter le gouvernement. Le suspense reste donc entier pour le moment. Seule certitude, la démission du vice-chancelier Heinz Christian Strache, qui dirigeait le FPÖ depuis 2005, est un coup dur pour l'extrême droite autrichienne à seulement une semaine des élections européennes. Vienne, Isorias, France Inter.
C'était une erreur, a convenu ce matin le chef du FPE, reconnaissant avoir été stupide, mais sans rien commettre d'illégal. En tout cas, sa démission aura mis dans l'embarras ses amis nationalistes du continent, réunis ce samedi à Milan, autour du président de la Ligue et ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Ils n'ont fait à ce sujet aucun commentaire, rappelant simplement leur objectif, faire du groupe dans lequel ils siègent ensemble la troisième force du Parlement européen. Pour Marine Le Pen, c'est la seule façon de peser sur l'avenir de l'Europe et de la France où la présidente du Rassemblement National le dit et le répète, si Macron n'est pas en tête le 26 mai prochain, il devra partir. Maxence Lambrecq, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Milan. Milan où, malgré tout, les partis nationalistes ont réussi leur démonstration de force et d'unité.
Eh oui, impressionnante photo de famille au pied de la cathédrale de Milan. Des milliers de personnes, une foule de drapeaux et sur scène, 12 leaders. Marine Le Pen savoure, quitte à exagérer un peu.
Nous vivons un moment historique. Et vous pourrez dire à vos petits-enfants, j'y étais.
La patronne du RN déroule tout sourire son discours habituel et conclut en italien.
Il 26 maggio.
Le 26 mai, nous allons rendre le pouvoir au peuple.
Les populistes défilent 5 minutes chacun et cela suffit au néerlandais Geert Wilders pour désigner l'islam comme adversaire.
We have to stop Islamization.
Nous devons stopper l'islamisation.
So one more time.
Une fois de plus,
basta Islam.
Stop l'islam. Et Matteo Salvini applaudit avant de dérouler un discours identitaire dans lequel il cite Jean-Paul II et invoque tous les saints. Le vice-premier ministre italien n'oublie pas de tacler son ennemi en Europe, Emmanuel Macron.
Qui a tradito l'Europe ?
Qui a trahi l'Europe, dit-il ? Ce sont les élites, les pouvoirs forts, ceux qui ont occupé cette Europe au nom de la finance et de l'immigration incontrôlée.
E dell'immigrazione fuori controllo.
Les Merkel, Macron et Juncker. Chacun quitte maintenant Milan en espérant surfer sur cette dynamique et ces images. Aucun autre groupe européen n'a organisé de tels meetings. Grazie. Milan, Stéphane Moffis, Maxence Lambrecq, France Inter.
Voilà, une semaine des européennes, c'était aussi ce samedi le 27e épisode des Gilets jaunes en France, qui fêtait le 6e mois du mouvement en défilant de façon très classique et plutôt calmement dans l'ensemble. Des rassemblements nationaux avaient été convoqués, notamment à Reims et à Nancy. Nancy, d'où nous appelle Mélanie Juvet.
La première action coup de poing des Gilets jaunes se passe devant la métropole du Grand Nancy. Là, des manifestants remplacent le drapeau européen par un gilet jaune sous les applaudissements et les fumigènes. Puis l'atmosphère se tend, notamment rue des Quatre Églises. Certains vont à l'affrontement avec les forces de l'ordre et des gaz lacrymogènes sont lancés. Une voie bloquée pour interdire l'hypercentre, ce que regrette Pascal, gilet jaune originaire du Berry.
Ils veulent éviter qu'on passe devant les monuments préfecture ou autre. À mon avis, c'est quadrillé pour ça, quoi. C'est pour éviter de gêner le monde politique, quoi. Il est évident que faut pas déranger, quoi.
Échauffourée lacrymogène également en fin de manifestation, porte Sainte-Catherine, non loin de la place Stanislas. Mais pour Thomas, gilet jaune et syndiqué, il fallait être là.
Je suis là depuis le 17 novembre, on continue, on lâche rien jusqu'au bout. Tant qu'on n'aura rien, eh ben on continuera. Peut-être qu'on est 2000 pour le ministère, mais nous on sait qu'on est bien plus et ça nous motive. Et
quant à la convergence des luttes, attendue, elle n'a pas réellement eu lieu. Seules quelques dizaines de manifestants ont sorti les drapeaux aux couleurs de leur syndicat. À Nancy, Mélanie Juvet, France. France Bleu Lorraine pour France Inter.
À Reims, 3 manifestants et 2 policiers ont été blessés, 12 personnes interpellées. Les vitres de plusieurs commerces et de France Bleu Reims ont été brisées par des Black Blocs. À Paris, quelques centaines de manifestants sont encore installés ce soir devant le Sacré-Cœur où ils sont arrivés en fin d'après-midi dans le calme. Au total, le ministère de l'Intérieur dit avoir compté 15 500 manifestants à travers le pays pour ce 27e épisode. Des Gilets jaunes qui, eux, ont compté 40 000 manifestants aujourd'hui. Parallèlement aux Gilets jaunes, plusieurs milliers de marcheurs se sont regroupés partout en France contre Bayer, Monsanto et autres géants de l'agrochimie pour réclamer un autre modèle agricole, des rassemblements festifs essentiellement. Et puis à Paris, autres manifestations également contre la réforme Blanquer de l'éducation nationale. 5 600 personnes ont été comptées par le cabinet indépendant Occurrence. L'article le plus controversé du texte qui donnait aux écoles et aux collèges la possibilité de se regrouper a été retiré. Le projet de loi doit maintenant revenir à l'Assemblée après avoir été voté par le Sénat. En bref, dans l'enquête sur l'attentat du marché de Strasbourg, l'un des complices présumés du tueur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il serait impliqué dans la fourniture d'armes à Shérif Chekat. L'attentat sur le marché de Strasbourg avait fait 5 morts et 11 blessés le 11 décembre. 4 autres complices avaient été mis en examen et écroués en décembre et en février dernier. Et puis, ils avaient volé et désossé des dizaines de véhicules utilitaires et les avaient revendus en pièces détachées en Europe de l'Est. 8 personnes ont été arrêtées dans les Bouches-du-Rhône, les Yvelines et l'Essonne.
Le journal de 19h sur France Inter.
Avec toi, Bilal, la dernière lauréate française de l'Eurovision apporte sur Twitter son soutien à Bilal Hassani, le candidat de la France au concours organisé tout à l'heure en Israël, concours que Marie Myriam avait gagné en 77, il y a donc 42 ans. Pour Bilal Hassani, sa perruque blonde et son look androgyne, tout est possible, même s'il n'est pas le favori des parieurs. Les enjeux de la soirée sont ailleurs, dans l'organisation de ce concours en Israël, dont la représentante l'avait emporté l'année dernière. De nombreuses personnalités ont appelé à boycotter l'événement pour dénoncer la violation systématique par Israël des droits des Palestiniens. Ces mêmes Palestiniens qui, du coup, ont décidé d'organiser leur contre-concours de la chanson ce soir dans un camp de Bethléem. Marine Vlaovic.
Au programme de ce Global Vision, du rap, de la pop, de l'électro et du jazz, mais aussi des prises de parole pour mettre en lumière la réalité de l'occupation militaire israélienne. Cet événement alternatif n'est pas contre l'Eurovision, expliquent les organisateurs, mais il s'inspire des valeurs originelles du célèbre concours de chansons, à savoir l'ouverture, la diversité et le respect des droits de l'homme. Une tentative pour dénoncer en musique les violations des droits des Palestiniens. Loin des paillettes et des décors futuristes de l'Eurovision, des artistes européens et locaux se produiront ainsi dans un camp de réfugiés à Bethléem en Cisjordanie occupé au pied du mur de séparation. Tandis qu'à Haïfa, au nord d'Israël, une drag queen entrera en scène, histoire d'ajouter un côté glamour et kitsch à cette contre-soirée diffusée en direct sur Internet. Ramallah, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Sur le tapis rouge de Cannes, pendant ce temps, ce soir, un retour en arrière de plus de 50 ans pour un homme, une femme et leur metteur en scène, Claude Lelouch, qui va livrer au festivalier une suite lointaine de sa Palme d'Or 66, film intitulé « Les plus belles années d'une vie », interprété par le même couple de l'époque, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Le film sortira en salle mercredi prochain. Il devrait séduire les nostalgiques, Corinne Pellissier.
Depuis 50 ans, rien n'a changé. Toujours la même musique, reprise cette fois par Calogero, les mêmes personnages, Anne Gauthier, Jean-Louis Duroc, et le même réalisateur, Claude Lelouch, qui avait envie de filmer leur retrouvaille, le temps d'un éclair. 13 jours de tournage à Deauville l'été dernier, pour un moment très tendre, en forme de longue conversation sur le temps qui passe.
Jean-Louis et Anouk ont fait le tour d'une vie. Et ils peuvent en parler avec humour, avec tendresse. J'ai trouvé que c'était un formidable spectacle. Et surtout que c'était un spectacle solaire, que c'était un spectacle positif. Ce petit présent, il n'a pas de prix.
Beaucoup de sobriété dans ce film, aucune fausse nostalgie et une vraie déclaration d'amour d'un cinéaste à ses comédiens. Anouk Aimée, solaire et Jean-Louis Trintignant, perdu dans ses souvenirs. Un rôle sur mesure pour Claude Lelouch.
Quand j'écoute la voix de Jean-Louis Trintignant, aujourd'hui, c'est la plus belle voix du monde. Sa voix, c'est la seule chose qui lui reste. Et alors là, il a fabriqué peut-être la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Je veux dire que cette voix, j'ai construit le film sur sa voix. J'avais envie que sa voix soit la vraie musique du film et puis que les yeux d'Anouk soient le regard.
Un voyage immobile très doux, écrit un peu comme un poème, qui ne manquera pas de nous renvoyer aux plus belles images du film de 1966.
Et ce soir en compétition à Cannes, deux films, Le lac aux oies sauvages du chinois Diao Yinan et Les siffleurs du roumain Corneliu Porumbiu. Après le cinéma, le musée, c'est possible ce soir avec la 15e nuit des musées partout en Europe. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir.
Alors vous au musée, vous y passez votre temps dans le cadre de votre vie connectée de façon virtuelle. Hein. Et cette semaine, c'est l'expérience des podcasts du Centre Pompidou que vous nous racontez.
Oui, et je vous emmène sous mon casque.
Non mais on va rester enfermés ici combien de temps? Comment ils ont pu nous oublier? Moi qui suis claustrophobe, me voilà coincé au fond d'une grotte. Pire, un fac-similé de grotte. Je suis peintre, pas géologue.
On sera libérés demain matin. Le scénographe arrive toujours très tôt. Passer la nuit dans une caverne, ça va nous mettre dans la peau de peintre préhistorique.
Voilà, c'est le scénographe qui arrive dans ce centre Pompidou. C'est dans cette mise en scène, en tout cas à deux voix, que se présente ce podcast. Il accompagne l'exposition actuelle du centre Pompidou qui s'appelle « Préhistoire, une énigme moderne ». Alors la visite va se poursuivre, on va finir par sortir de cette caverne. Elle fait étape devant les tableaux de Cézanne, les sculptures inspirées d'outils préhistoriques ou les œuvres de Picasso.
Et ce podcast, on peut très bien le suivre sans mettre les pieds dans l'expo. Il est disponible sur toutes les plateformes dédiées au son.
Vous vous souvenez de l'audio guide ?
Bien sûr.
Voilà, alors c'est pareil.
On se souvient, ça existe toujours, que je sache.
Mais au Centre Pompidou, en fait, on a déjà abandonné les audioguides. Et désormais, on a mis aussi au repos l'application mobile. Écoutez Patrice Chazotte, directeur adjoint des publics.
Nous, ce qui nous intéresse à la démarche, c'est que le visiteur, s'il est fatigué, s'il veut reprendre chez lui des contenus, tout ça nous intéresse. Et les podcasts, en fait, l'avantage des podcasts, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre un contenu sur plein de plateformes. On n'est pas obligé de rentrer dans un format d'une application, etc. Et qui, pour nous, comme notre objectif, c'est rendre tout ceci le plus accessible au plus grand nombre. Les podcasts, en termes de création aussi, puis en termes de positionnement, puisque au niveau des musées, on va dire aujourd'hui, on est les premiers à développer ça. Et donc, on arrête l'application d'aide à la visite pour passer au podcast.
Voilà, foin de toutes ces vieilleries, application audio guide, on met un podcast gratuit dans son smartphone et en avant. Désormais, le public veut du son et du beau son, nous dit-on. Écoutez cet autre extrait d'un autre podcast du Centre Pompidou.
Un podcast, une œuvre. Nancy Sperrow, Victims, The War, 1967.
Je peux vous dire qu'il y a du neuf, du beau, du bon à se mettre sous le casque, que vous soyez au musée ou pas. C'est de la vraie bonne radio, comme on l'aime.
Et comme on l'a fait tous les jours d'ailleurs sur France Inter, vous posez cette question, Christine. Le podcast tuera-t-il l'audio guide? Et c'est à lire sur franceinter.fr. Allez, en sport, en foot, c'est l'événement de la soirée, la finale de la Ligue des Champions féminines, l'Olympique Lyonnais contre Barcelone. Quatrième finale de suite pour les Lyonnaises qui ont emporté les trois précédentes. Le match se dispute à Budapest. Enfin, se dispute, façon de parler, Cédric Guillou, tellement les championnes de France se baladent.
Ah oui, c'est le terme. Elle se balade, Yves. 4-0 pour l'Olympique Lyonnais après quasiment une heure de jeu. Ici à Budapest, il y avait ce score hein, qui était acquis à la demi-heure de jeu pour des Lyonnaises qui ont considérablement mis le pied sur le ballon dès le début du match et qui ont surtout réussi à convertir leurs occasions. Dès qu'elles en ont eu la possibilité, c'est Jennifer Marozan qui avait ouvert le score dès la 5e minute de jeu. Ada Hegerberg a doublé la mise à la 14e et la meilleure joueuse du monde, hein, celle qui a reçu le ballon d'or en 2018, en tout cas, eh bien, a doublé la mise en ce qui la concerne à la 19e, puis elle a triplé, et même un triplé donc pour Ada Hegerberg à la demi-heure de jeu, alors que Van de Sanden est remplacé à l'instant par Delphine Cascarino, les Lyonnaises, qui se dirigent, vous le disiez, vers une 4e Ligue des Champions consécutive, une 6e Ligue des Champions au total. Lyon qui est en train de confirmer ce soir que c'est la meilleure équipe de tous les temps en football féminin. Il reste une demi-heure à jouer, 4-0 pour Lyon face à Barcelone.
Cédric Guillou à Budapest. En Allemagne, les adieux Tony Truant du duo Ribéry-Robben pour son dernier match en Bundesliga. Le Français et le Néerlandais, 36 et 35 ans. Ils ne seront plus au Bayern la saison prochaine. Ils ont inscrit les 4e et 5e buts de leur équipe et puis des résultats du top 14. Le Racing 92 qui domine Perpignan 52-14. Pau qui assure son maintien en battant Grenoble 22-0. Le temps.
La météo avec Air France. et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
De fortes quantités de précipitations sont attendues ces prochaines 24 heures sur le sud de l'Aquitaine, placées en vigilance orange, avec pour cette journée de dimanche à nouveau une très grande partie du pays sous les averses. Le ciel sera moins menaçant, de la Bretagne à la Vendée et dans le golfe du Lion, mais souvent orageux, surtout en cours d'après-midi, près des Pyrénées, des Alpes à la Corse et du Grand Est au nord de la Seine, avec de violentes et fortes averses. Notez qu'il va neiger au-dessus de 1500 mètres sur les Pyrénées, 1800 sur les Alpes, où le risque d'avalanche est marqué. Au lever du jour, les températures, loin des gelées, seront généralement comprises entre 7 et 11 degrés. Les maximales atteindront 19 à 21 du nord à l'Alsace, 17 à 20 près de la Méditerranée et 15 à 17 sur les autres régions.